BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission BFM Crypto, le club comme tous les jours à 15h jusqu'à 15h30. On a plein de sujets à vous parler aujourd'hui. Politique, avenir du secteur, nouveau stablecoin, des annonces, de l'actu aussi avec mes invités Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory.
Bonjour Sandra.
À vos côtés, Florent Gabriel, fondateur et CEO de Block.io. Bonjour Florent.
Bonjour Sandra.
Et Axel Saban, avocat associé chez DNA Partners. Bonjour Axel.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous pouvez, vous le savez, nous écrire sur notre adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr pour nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur ce secteur. On y répond le jeudi entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Je vais commencer par cette actualité et ce que vous avez fait tous les trois, messieurs, parce que vous y étiez tous les trois, au hackathon de Gabriel Attal. Qui veut commencer, Florent? C'était quoi, en fait, cette réunion des acteurs du secteur crypto?
Alors effectivement, on était plus d'une centaine hier de membres de l'ADAN et du secteur crypto, Bitcoin en particulier, oui, français, à l'Assemblée nationale pour discuter autour de trois grands sujets: la sécurité, la fiscalité et l'attractivité / compétitivité, parce qu'il y a ces sujets-là aussi.
Ouais.
Donc on a été dispersés, séparés en trois groupes pendant l'après-midi pour justement travailler sur des propositions qui feraient sens pour ce secteur et ensuite faire une reconstitution de tout ça avec un vote que l'Assemblée nationale n'a peut-être jamais connu, où tout le monde était plutôt d'accord.
Ça sert à quoi, ce genre de proposition? Axel, vous étiez dans quel groupe d'ailleurs, tous les trois? Vous étiez
sur le groupe fiscalité.
Fiscalité. Voilà. J'allais dire, est-ce que ça fait avancer les sujets de parler comme ça du secteur? Est-ce qu'on se rend compte qu'on a une oreille attentive, que ça va peut-être pouvoir déboucher sur des propositions concrètes de l'année prochaine, par exemple?
Alors, que ça fasse avancer, ça c'est indéniable en fait, parce que ça fait au moins avancer dans la mesure où le secteur se sent entendu et on voit qu'il y a les pouvoirs publics, les représentants nationaux qui s'intéressent à ce sujet-là et qui veulent faire bouger les lignes. Après, ouais, évidemment, ça ne dépend pas que des personnes qui étaient présentes de faire bouger les lignes. Ça dépend des députés, de nos représentants d'une manière générale et du gouvernement. Mais en tout cas, ça permet de porter à leur attention une grande majorité des problématiques du secteur, donc pour ma part sur le secteur fiscalité, les informer de tous les points un peu bloquants sur la crypto.
J'allais dire, la fiscalité, c'est peut-être le secteur où ils ont le plus avancé, peut-être, ces dernières années, avec plein de mesures pour les investisseurs français. C'est peut-être là qu'il y a finalement, on a avancé le plus et on... Bah, peut-être pour voir où est l'argent. Enfin, voilà, on en parle souvent quand même sur ce plateau, hein, que la fiscalité, elle est quand même déjà très agressive.
Alors, la fiscalité, sur le fond, elle n'a pas beaucoup avancé ces dernières années. Elle a beaucoup avancé, en fait, en 2019.
Ouais.
Mais depuis, les avancées qu'il y a eu, il y a eu quelques clarifications, mais il y a surtout eu beaucoup d'avancées pour aller contrôler, pour aller surveiller.
Oui, et dans les obligations quand même.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Toujours mettre beaucoup plus à la charge des contribuables des obligations d'information, de reporting à l'égard de l'administration pour faciliter le travail de l'administration, tout simplement. Ouais. Mais sur le fond, en fait, on a un régime aujourd'hui qui est globalement inchangé dans les grandes lignes depuis 2019. Et l'optique de ces discussions, c'est de voir comment renouveler un petit peu, comment rajeunir ce régime fiscal pour qu'il soit plus attractif.
Oui, plus attractif, un régime fiscal attractif. Grégory, comment vous avez lu cette journée? Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher concrètement sur des pistes intéressantes?
Ça, on verra par la suite, hein, mais il faut, pour donner un peu de contexte, c'était l'ADAN qui organisait ça. Donc l'ADAN, c'est le syndicat professionnel des entreprises crypto en France, qui organise ça avec Gabriel Attal. Gabriel Attal a fait un discours tout au début, fait un discours, il me semble, à la fin. Moi, j'étais absent à la fin, mais il me semble que c'était ça.
Exact.
Et en fait, l'ADAN, aujourd'hui, rencontre tous les candidats potentiels à l'élection présidentielle pour les sensibiliser à ces sujets-là. Il y a environ deux semaines, c'est David Lisnard, donc ex Les Républicains, qui a annoncé sa candidature, qui a pu rencontrer les acteurs crypto. Maintenant, c'est Gabriel Attal. Il y en aura sûrement d'autres dans les prochains mois. Mais pour tout vous dire, moi j'étais sur le groupe de travail attractivité, ouais, et il y avait un constat assez frappant, c'est que beaucoup de demandes tournaient, en tout cas beaucoup de propositions tournaient autour de comment rendre plus intéressant, plus incitatif la détention de stablecoin euro. Ben en fait, on se rend compte que tout se décide à Bruxelles. En France, on peut pas faire grand chose à ce niveau-là.
Oui.
On en revenait d'ailleurs assez souvent sur ce genre de conclusion. C'est soit on nous dit, ou on l'entend et on le comprend quand on nous... Bon, on s'est même dit qu'on est en veille d'élection présidentielle et que ça sera des choses à mettre sur la table d'ici 2 ans. Notre secteur n'a pas 2 ans. Tout évolue beaucoup trop vite, que ça soit l'intelligence artificielle, que ça soit le monde des cryptoactifs. 2 ans, c'est une éternité. Donc, il n'y a pas le temps aujourd'hui de faire des lois sur, ou des propositions sur l'attractivité en fonction d'un calendrier électoral. C'est juste, c'est de la schizophrénie. Par contre, on soulignera la volonté de Paul Midi, le député, qui disait ne pas vouloir augmenter les impôts sur notre secteur. Et à contrario, nous, en tant que mineurs de Bitcoin, on souhaitait les augmenter. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans le pôle attractivité, on a également parlé du minage de Bitcoin.
Oui.
Donc, on en a déjà parlé ici. Il y a aujourd'hui 30 TWh de surplus de capacité électrique en France qui sont non vendus, faute de débouchés économiques. Pourquoi ? Parce que même si l'électricité est à zéro, il y a un mur fiscal à entre 6 et 7 centimes le kilowattheure. Je parle volontairement kilowattheure, mais c'est en mégawatts normalement. Si demain il y avait un consommateur flexible qui existe déjà aux États-Unis, dans plein d'autres pays, qui aurait le même droit, on demande le même droit, pas les mêmes subventions que l'hydrogène, d'être considéré comme consommateur électro-intensif, ça ferait juste en termes de recettes fiscales, je ne parle même pas de la rentabilité pour EDF, les producteurs d'énergie, de l'IS qu'on souhaite payer, mais juste en termes de recettes fiscales sur l'électricité à hauteur de 2 centimes le kilowattheure pour les électro-intensifs, 30 TWh, ça représente environ 600 millions d'euros par an. Donc on parle de plusieurs milliards.
Là, vous avez fait le calcul à leur place, ça leur parle, ça fait évoluer votre dossier sur le minage ?
Je pense que ça leur parle de plus en plus, parce qu'il y a quand même le rapport qui est sorti d'EDF début janvier, de mémoire, sur la modulation des réacteurs nucléaires, qui indiquait le coût déjà de maintenance estimé à plusieurs milliards sur les dizaines de prochaines années, parce que nos réacteurs ne sont pas prévus pour faire de la modulation nucléaire. De l'autre côté, là on parle juste des réacteurs, mais on parle aussi du manque à gagner de nos exportations, estimé à 1,9 milliard par an de manque, plus le manque de recettes fiscales de l'autre côté. Donc on parle de quelque chose de tangible, et aujourd'hui, et je l'ai vécu, je travaillais sur des barrages hydroélectriques pour EDF pendant plus de 7 ans, de l'eau qui passe par-dessus les vannes et qu'on ne renverra jamais sous forme d'électricité ni de monnaie. Je fais exprès de dire de monnaie, mais de Bitcoin, on ne reverra plus jamais cette énergie ou cet actif.
Ce qui me fait poser la question, oui, Axel, vous vouliez ajouter.
Oui, je pense que c'est extrêmement intéressant, en fait, l'approche de Florent, parce que d'un point de vue politique, et c'est peut-être quelque chose que les politiques devraient se saisir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur la recette fiscale, la richesse de l'État, c'est où est-ce qu'on la prend ? Avec une proposition comme ça, en fait, il ne s'agit absolument pas de prendre la recette, il s'agit de créer de la recette. Et je pense que ça mériterait, sans doute de la part du groupe de Gabriel Attal ou même d'autres groupes, de s'interroger en fait sur non pas comment déplacer de la richesse, mais vraiment comment on peut la créer. Et le minage du Bitcoin est vraiment un exemple de... On n'a aucun effort à fournir, juste un petit texte à adapter à cette industrie. Et en fait, la ressource nécessaire est déjà présente, c'est juste qu'on la laisse s'évaporer dans la nature, alors qu'on pourrait la transformer en monnaie sonnante et très
puissante. Mais ça me fait poser cette question, Grégory, est-ce que tout cela, c'est électoraliste ? Est-ce que ces réunions-là sont organisées parce que certains partis plutôt aux extrêmes ont commencé à aborder ce sujet du secteur et on s'aligne tous, ou est-ce que réellement il y a une compréhension du secteur, parce que là c'est très technique, vous apportez des solutions techniques sur un sujet qui est débattu énormément sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie, tout ça, on apporte des réponses concrètes et il n'y a pas d'action politique qui suit, on a des délais de 2 ans, c'est surréaliste effectivement, donc quel est l'objectif de ces réunions-là ?
Vous voyez très, très clair hein, Sandra, l'élection arrive, il faut absolument séduire le tissu entrepreneurial, le tissu tech en France, la crypto en fait partie, bon il n'y a pas que la crypto dans la tech française, mais parler à cette industrie, ça nécessite en fait d'avoir ce genre de proposition. Mais sur le minage, j'ai l'impression que ça fait de plus en plus consensus à l'extrême droite, à droite, de plus en plus au centre. Donc je pense que beaucoup de partis en fait vont se positionner, en tout cas au moins pour expérimenter. ce sujet-là. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de débats. C'est pas une solution magique. Le minage va pas tout résoudre. Il faut expérimenter parce qu'il y a plein de coûts cachés qui sont pas forcément abordés. Mais je pense que ça serait l'approche la plus saine. Les parties les plus pragmatiques auraient tout intérêt à le faire. Et je pense que personne n'y verrait du mal là-dedans.
On avance effectivement sur ces dossiers-là. En attendant les mesures qui sont prises à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est cette mesure qui pourrait obliger les Français à déclarer leur wallet de plus de 5 000 euros. Hein, ça, c'est ce qui est tombé la semaine dernière. On en a parlé avec vous, Grégory. Évidemment, votre avis, messieurs, sur cette question, Florent ? Parce que c'est ça pour les mesures qui sortent réellement, c'est ça aujourd'hui.
On parle d'une mesure qui a été votée par 40 mecs à 23 heures.
Et qui pourrait être toquée, vous l'avez dit, par la commission mixte paritaire.
Ça devrait être retiré.
Mais ça pourrait être présenté à un autre moment. Hein.
Ça va être possible. En CMP, ouais, commission mixte paritaire. Le truc, c'est que le gouvernement, il est contre. La DGFiP, ça a été lu en commission. Ils n'ont aucun moyen de contrôler ça. Ils ne souhaitent pas ça.
D'autant que Ledger ne sera pas interrogé, par exemple, derrière. Enfin, il n'y aura pas une.
Non, mais même Ledger n'ont pas accès à ce que vous avez sur votre. Qui est protégé par votre Ledger. Donc, tout comme on ne demande pas les lingots d'or, tout comme on ne demande pas les œuvres d'art ou les quelques billets que vous avez sous le matelas, il est impossible de contrôler cela. Et la DGFiP ne le souhaite pas, le gouvernement ne le souhaite pas. Ça a été proposé par les communistes, si je ne me trompe pas. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un amendement de rejet qui a été voté contre par des partis qui se sont prononcés plutôt pour la crypto encore très dernièrement.
Oui.
Donc on voit un peu la schizophrénie ambiante où justement on dit est-ce que c'est du rattrapage électoral ? On dit que le Bitcoin c'est formidable mais on n'y comprend absolument rien parce que quelques semaines après on vote contre des choses qui sont complètement...
La schizophrénie ou de l'incompréhension justement du sujet, Grégory.
Pour offrir un peu de neutralité sur le sujet, le point de vue de la gauche c'est qui a notamment été soulevé pendant les débats parlementaires, c'est qu'on surveille énormément les bénéficiaires d'allocations sociales. Donc pourquoi on ne surveillerait pas aussi les contribuables sur ce qu'ils pourraient éventuellement cacher ? C'est le point de vue d'une partie de la gauche. Ça s'entend, il y a débat. Hein.
D'un côté, c'est de l'argent qu'on a donné et de l'autre côté, c'est des gens qui en ont gagné. Je ne vois pas vraiment où est le débat.
L'avis de l'avocat
fiscaliste, effectivement. En fait, c'est une mesure, à mon sens, qui n'a pas justement vraiment de sens. En vérité, comme le soulignait très justement Florent, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à contrôler. La seule manière qu'aurait l'administration de contrôler le respect de ces bonnes obligations, c'est justement qu'elle effectue elle-même de la traçabilité on-chain, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui empêche l'administration de faire ce type de traçabilité, étant donné que via les plateformes d'échange, l'administration a la possibilité d'aller récupérer l'information du wallet qui va être connecté à une plateforme d'échange, et donc de faire un lien entre un premier wallet et une identité physique. Après, il existe énormément de solutions tech qui vont permettre à l'administration, par elle-même ou via des partenariats public-privé, de faire cette traçabilité, d'aller suivre les opérations qui sont réalisées. Le fait que le wallet soit supérieur à 5 000 euros ne préjuge absolument pas de la réalisation d'opérations taxables.
J'avais d'ailleurs une question tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui me demandait, mais 5 000 euros, c'est 5 000 euros quand ? C'est 5 000 euros au moment de la déclaration ? C'est 5 000 euros pendant l'année fiscale ? C'est 5 000 euros. Et c'est vrai, à quelques mois après, ça peut être un wallet qui n'est plus à 5 000 euros.
Alors, bon, pour l'administration fiscale, il faudrait prendre l'ATH.
Souvent, sur ce type de déclaration, on regarde le plus haut montant de l'année. Voilà. Effectivement. Ah. Ce qui pose, encore une fois, un problème. J'investis demain dans un crypto-actif, juste comme ça, mais qui prend en deux jours énormément de valeur et qui s'effondre aussitôt après.
Exactement.
On ne sait juste pas pourquoi ça a pris de la valeur. Est-ce que je suis obligé de déclarer, sachant que je n'ai jamais eu cette valeur en réalité ?
Oui, c'est ça.
Donc ça pose beaucoup de problèmes.
Ça pose des questions, Florent.
La DGFiP a aussi eu la lucidité que n'ont pas eu ses élus, c'est de dire qu'on est presque dans de la mise en danger d'autrui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bases de données se font pirater à une vitesse grand V, que ça soit France Travail, quand c'est même pas quelqu'un du gouvernement qui vend les données, c'est arrivé.
Pas du gouvernement.
Non, d'ImpôtGouv.
Pardon, quelqu'un de l'administration, tu as raison. Au final, si cette base de données se ferait pirater, et c'est même la DGFiP qui en parle, ça serait une catastrophe. On est à un rythme de je ne sais combien de kidnappings par semaine, on ne parle même pas par mois, il y a encore eu des séquestrations hier et avant-hier. Ce genre de fichier, s'il se retrouvait dans la nature, serait une catastrophe.
Extra sensible, effectivement. On va passer à un autre dossier, parce qu'il y a eu une annonce cette semaine, Grégory Raymond, le lancement de l'euro H-E-U-R-O, oui. par la start-up EuroSAS, stablecoin adossé à l'euro. Mais ça y est.
On l'avait pas vu venir, oui.
Émission de 600 millions, quand même. Ouais, on y est.
Bah, du jour au lendemain, en fait, ça double la capitalisation de tous les stablecoins euros qui existaient. Donc, on était à peu près à 500 millions, 600 millions d'euros disponibles. Là, ça double juste grâce à un acteur, en fait, qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Bon, c'est un acteur qu'on connaissait quand même depuis quelques mois, mais qui était un peu shadow. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de déclarations de la part des dirigeants. Ça construisait un peu tranquillement, mais voilà, ils arrivent d'un coup. C'est émis sur la blockchain Solana, pour ceux qui veulent chercher. Donc, j'ai vérifié moi-même, ils y sont bien.
Il y a Ethereum aussi, non ?
Un tout petit bout sur Ethereum, mais la grosse partie est sur Solana. Ce qui est étonnant, c'est que ce stablecoin, en fait, on ne peut pas l'acheter, nous. Il n'est pas listé sur les plateformes d'échange. On ne peut pas voir ses références sur les sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko. C'est... l'équipe de Euro m'a assuré qu'il travaillait dessus, mais en fait pour l'instant il y a beaucoup d'annonces, on les voit sur la blockchain, mais qui les utilise? Alors moi je leur ai posé la question, ce sont surtout des clients qui sont des exchanges crypto qui ont besoin de stablecoin pour ne pas repasser en monnaie traditionnelle tout le temps. Ce qui est un peu étonnant, c'est que les exchanges, ils ont déjà plein de stablecoins, donc il faudra quand même un peu suivre ce projet qui a une licence de monnaie électronique. C'est ce qui permet d'émettre un stablecoin conforme à la réglementation, mais ils ont cette licence depuis 2021, donc depuis assez longtemps, et ce n'est pas un acteur historique des stablecoins. À la base, c'était un acteur très Web 2 qui faisait de l'ouverture de compte, qui fournissait des cartes de paiement pour de nombreux acteurs traditionnels. Après, ils se sont mis sur le on-ramp et off-ramp crypto, c'est-à-dire passer du monde traditionnel au monde crypto et inversement. Ça, c'est leur cœur de métier, et ils ont ajouté un stablecoin par-dessus. Mais il y a encore quand même pas mal de zones d'ombre.
De zones d'ombre, je vous sens prudent. Effectivement, dans les chiffres, 600 millions d'euros, c'est 6 fois plus que le stablecoin de Société Générale Forge, en l'occurrence. Et effectivement, l'idée, c'est quand même de devancer les banques sur cette question-là. Pour vous, faut quand même attendre, du coup.
Oui, faut quand même attendre. Après, on peut dire, waouh, en quelques jours, ils ont fait beaucoup plus que Société Générale Forge. Il faudra quand même souligner que Général Forge ne travaille pas avec n'importe qui, travaille pas avec n'importe quelle plateforme d'échange crypto, même régulée. Elle travaille qu'avec les plus régulés. Euro travaille surtout avec des plateformes asiatiques, certes régulées, donc il n'y a pas de problème, mais ce sont pas les partenaires traditionnels des stablecoins de qualité bancaire,
Un avis, Florent?
C'est un sujet qui a été débattu hier d'ailleurs aussi sur les stablecoins, mais plus particulièrement sur le yield autour des stablecoins, donc le rendement apporté par les stablecoins. Donc il y a des personnes qui se placent plutôt contre, parce que c'est les acteurs privés qui vont prendre potentiellement plus de risques pour distribuer du yield. Toutefois, aujourd'hui, mon humble retour d'expérience, connaissant un peu les utilisateurs du monde des crypto-actifs, les gens vont suivre le rendement. Si demain, il y a des acteurs américains avec du rendement sur stablecoin qui sont émis du monde du trésor, on se retrouve avec une quantité de Français, d'Allemands ou de n'importe quel pays qui est en train de financer de la dette américaine plutôt que de financer de la dette... Alors, il n'y a pas encore de dette européenne, on ne va pas leur donner de mauvaises idées, mais de la dette française ou de la dette allemande ou de la dette italienne. Et ça, je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil de penser que les gens vont préférer, par patriotisme, utiliser un euro numérique ne rapportant en rien, s'il y a de l'autre côté des stablecoins qui potentiellement peuvent ramener quelque chose.
Bon, on ne crie pas victoire tout de suite alors.
On peut vouloir quand même se protéger du risque de change, parce qu'il y a quand même des risques de détenir du dollar, on l'a vu quand même ces derniers mois.
C'est vrai, mais aujourd'hui, je parle vraiment de gros volumes, pas de pour 1000 ou 10 000 balles, vraiment sur des gros volumes pour des grosses entreprises. Aujourd'hui, il y a des assurances qui couvrent ce risque de change. Donc si ton assurance couvre le risque de change et te ramène quand même du yield, je te garantis que les gens vont mettre avec l'assurance qui va couvrir le change en USDT ou en USDC.
Et après, il y a un aspect fiscal pour l'incitation à utiliser des stablecoins.
Là, on y arrive.
Ah, voilà,
c'est la conversion entre une crypto et le stablecoin.
Alors,
intéressant.
Aujourd'hui, on est toujours à un statu quo des stablecoins où on dit, bah, en fait, la conversion d'un cryptoactif vers un stablecoin, on reste toujours bénéficiaire pas. De l'exonération des échanges entre cryptoactifs. Ce sont deux actifs qui ont la qualification fiscale de cryptoactifs, donc on peut les échanger sans avoir de frottement fiscal. Le problème là-dedans, c'est qu'on a quand même des positions au niveau européen qui viennent nous dire les stablecoins, en réalité, c'est de la monnaie électronique. Alors, dans les règlements européens, on était plutôt initialement sur le stablecoin à le régime de la monnaie électronique, mais ce n'est pas de la monnaie électronique. Et finalement, dans les dernières publications des institutions européennes, on est plutôt sur non, ça reste, c'est de la monnaie électronique. Donc, on a ces sujets potentiel déplacement du fait générateur d'une imposition vers une conversion crypto stablecoin qui va déclencher la flat tax. Et ça, en fait, c'est une position qui a été avancée par plusieurs acteurs français aussi, acteurs gouvernementaux français, en disant est-ce que ça ne serait pas pertinent pour fluidifier l'utilisation du stablecoin en tant que moyen de paiement, de ne plus avoir d'événement fiscal euro-stablecoin ou stablecoin-euro, parce que justement ça permettrait avec ces euros d'acheter du stablecoin, d'en faire beaucoup d'utilisation sans avoir de fiscalité particulière. Le problème là-dedans, c'est que ça pose le problème de est-ce que les acteurs crypto vont vouloir aller sur ce stablecoin euro avec leur crypto ? Et la réponse est évidemment non. Donc ce genre de déplacement pourrait clairement désavantager l'émergence des stablecoins euro.
On suivra ce dossier, évidemment. Pour continuer sur la fiscalité, nous avons ouvert la période de déclaration fiscale il y a une semaine. Maintenant, ça y est, ça a commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire les points d'attention sur lesquels il faut rester vigilant en cette année 2026, Axel ?
Alors, il y a un gros point d'attention qui n'est jamais négociable. En tout cas, c'est ce que je dis toujours à mes clients. C'est à minima dans la déclaration, dès lors que le contribuable a des comptes ouverts auprès de plateformes situées à l'étranger, on déclare ses comptes. C'est un formulaire qui n'est pas très compliqué à remplir. On plie les informations sur le compte, les références du compte. Une question qu'on me pose assez souvent, c'est oui, mais en fait, ma plateforme est titulaire d'un enregistrement PSAN, c'est encore le cas pendant quelques mois, ou va être titulaire d'un agrément MiCA. Du coup, j'ai pas besoin de la déclarer. Non, ça n'a absolument rien à voir. Exactement.
Où sont vos fonds, en fait ?
Exactement. Savoir si la plateforme, elle est située en France ou à l'étranger. Oui. C'est vraiment ça qui déclenche cette obligation-là. Ça concerne absolument tous les titulaires de comptes, ça concerne les personnes physiques, les sociétés. Maintenant, il y a une évolution il y a quelques années maintenant où même les sociétés qui ont la forme commerciale doivent déclarer. C'était pas le cas avant. Donc maintenant, vraiment, tout titulaire de compte situé en France doit déclarer les références de ce compte.
J'ai entendu encore récemment des détenteurs de crypto dire ben non, c'est à l'étranger, c'est hors du radar de l'administration fiscale. Faut plus réfléchir de cette façon-là.
Non,
on est d'accord. C'est quoi les risques ?
Alors c'est extrêmement dangereux. Alors déjà les risques, c'est qu'il y a des amendes pour défaut de déclaration de compte qui peuvent être de au minimum 1 500 € par année et par compte non déclaré.
Oui.
À cela, quand on a des revenus taxables sur ces comptes, on a des majorations qui peuvent atteindre 80% sur les rappels d'impôts sur les comptes non déclarés, des délais de prescription qui sont allongés. On va passer de 3 à 10 ans. De délai de prescription, donc en fait on a une épée de Damoclès pendant un certain temps. L'argument c'est à l'étranger, c'est hors des radars de l'administration, c'était encore un peu vrai jusqu'à il y a quelques années, mais aujourd'hui en fait on a une série de textes qui est entré en vigueur, donc c'est l'échange automatique d'informations, ce qu'on appelle DAC8, au niveau européen, qui est déjà en vigueur aujourd'hui, donc pour les opérations réalisées sur 2026, communiquées en 2027 à l'administration, ça concerne les pays de l'Union européenne. Donc on peut se dire, bah, ok, mon compte est un peu plus loin, dans un paradis fiscal, pas de problème. Et non, parce qu'en fait, il y a le pendant OCDE de ce texte, le Crypto Asset Reporting Framework, qu'on appelle CARF. Et là, en fait, ça concerne actuellement un peu plus de 50 juridictions, avec une prévision d'arriver d'ici 2028-2029 à un peu plus de 70 juridictions qui se sont déjà engagées à signer, à mettre en place. Donc d'ici là, il y aura peut-être de nouvelles qui vont se dire, en fait, je vais rejoindre cet outil d'échange automatique d'informations. Et ça va aussi concerner des pays qui sont classés un peu paradis fiscaux. Donc, il faut faire attention.
Je vous vois sourire, Florent.
Non, ça me fait rire parce que quand la déclaration arrive, nos clients, ils sont un peu en panique sur le mining de Bitcoin. Autant ceux qui ont des entreprises, c'est un levier formidable. Autant pour ceux qui sont en particulier, et je mets des guillemets à particulier, qui sont au BNC, bénéfices non commerciaux, au réel non professionnel, on fait des longues phrases. Eh ben, aujourd'hui, quand vous souhaitez déclarer ce que vous avez miné, sans entreprise, ben en fait, si vous souhaitez le faire en ligne, ça demande un numéro de ciré. Donc, sauf qu'on n'a pas d'entreprise, donc il faut le faire en papier, et j'imagine la déclaration papier de quelqu'un qui a fait du minage plus du stacking. Envoyer l'annuaire, les pages jaunes à l'administration fiscale, je pense qu'elle va être contente. Donc ça, c'est le premier cas qui fait sourire, et on a le deuxième cas, c'est les gens qui sont en profession libérale chez nous, parce qu'on ne peut pas avoir deux activités d'auto-entrepreneur et on n'a pas le droit de mélanger la fiscalité. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais grosso modo, si tu as deux activités BNC, comment tu fais ?
Très compliqué.
Une grande complexité quand même.
Effectivement, ça c'est... Ouais. Pour l'instant, j'ai parlé juste de l'obligation de déclarer des comptes à l'étranger, mais Florent met le doigt sur quelque chose qui est très complexe, c'est que aujourd'hui, il y a d'omerta en fait, dans l'écosystème crypto. On vient nous dire, en fait, les seuls éléments à déclarer, c'est quand je fais mon off-ramp crypto. Donc en fait, j'ai mes cryptos et je les convertis en euros.
Oui.
Je redeviens enfin possesseur de richesses tangibles, on va dire, même si c'est un peu caricatural, mais en tout cas, je peux les dépenser au jour le jour. En réalité, non, il y a tout un tas d'opérations qui peuvent générer de l'imposition quand on perçoit des rendements passifs en crypto, notamment quand on fait du mining ou du staking. Bref, en fait, faut toujours porter un peu attention à aux opérations que l'on va pouvoir faire sur la crypto, que ce soit sur des plateformes centralisées ou sur des protocoles décentralisés. D'ailleurs, ça ne change absolument rien.
C'est ultra compliqué à faire. Je l'ai vu depuis plusieurs années. Donc, il faut quand même se faire aider. C'est quand même le mieux quand on a un doute. Plutôt que de faire une erreur et plutôt que de se faire rattraper, vaut mieux demander à un avocat fiscaliste, par exemple. On en a plein dans cette émission qui sont spécialisés.
Théoriquement, on peut aussi appeler son centre des impôts. Ils sont censés pouvoir donner des renseignements.
Sur
d'expérience, je n'ai jamais croisé un inspecteur sur une hotline fiscale au centre des impôts qui sache répondre sur une question crypto.
Voilà, c'est pour ça que je conseille finalement à ceux qui sont concernés de se faire aider par un professionnel. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, Florent Gabriel, fondateur et CEO de Blog.io, Axel Sabon, avocat associé chez DNA Partner. Merci beaucoup pour cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.